Alors, on va aborder le deuxième signe, le deuxième double signe, le signe des pins et la marche sur les eaux. Bon, le miracle des pins est très célèbre. En fait, c'est le, on a vu ça là dans le jeu, c'est le seul miracle de Jésus qui est rapporté dans les quatre évangiles, le seul. Dans l'évangile de Jean, l'épisode se déploie en cinq scènes. Jean donne beaucoup plus de place à ce miracle que Matthieu, Marc et Luc. Donc, on va suivre la version de Jean. Et Jean fait un travail beaucoup plus développé, beaucoup plus important, pour nous dire le sens de ce signe que les autres évangiles. Là, c'est pour Jean, Jean chapitre 6, c'est pour moi, c'est peut-être le chapitre le plus extraordinaire des évangiles. Parce que ces signes, les deux signes que nous allons regarder aujourd'hui, sont suivis d'un discours, d'une prédication que Jésus fait dans la synagogue de Capharnaüm. Et vraiment, c'est dans ce discours que Jésus dit le plus clairement quelle est sa vraie mission. Donc pour Jean, c'est un incident vraiment, vraiment central dans le ministère de Jésus. Et dans l'évangile de Jean, l'épisode se déploie en cinq scènes. Vous voyez, c'est beaucoup plus développé que dans les autres évangiles. Le décor est planté, ça c'est les versets 1 à 4. Le signe est préparé, versets 5 à 10. Jésus est un metteur en scène, il est en train d'orchestrer ce signe, parce qu'il veut que ce soit un enseignement. L'enseignement est extraordinaire. C'est le signe le plus complet dans tous les évangiles. 3. Le signe est accompli, ça c'est les versets 11 à 13. 4. Le signe est méconnu, versets 14 à 15. Et puis, le signe est complété, cinquièmement, versets 16 à 21. C'est vraiment un texte extraordinaire. Je crois que vous allez être ravis de voir ce que Jésus nous fait comprendre. Alors, d'abord, le décor est planté. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. Jésus habite à Capharnaüm. Il a une maison à Capharnaüm, c'est son quartier général. Il s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée vers la région de Tibériade. Bon, le lac de Galilée, d'habitude, on le voit de nord en sud. Ici, c'est l'autre côté parce que c'est comme ça, la diapo. C'est le format de la diapo. Une foule nombreuse le suivait, parce qu'on avait vu les signes qu'il faisait sur les infirmes. Ces Galiléens voient les signes accomplis par Jésus. Ils voient la puissance surnaturelle exercée par Jésus. Mais ils ne comprennent rien au vrai sens des signes. Et ça, c'est un reproche que Jésus fait à ses auditeurs régulièrement, même aux apôtres. Ils ne comprennent pas le sens de ce qu'ils voient. En fait, ils comprennent mal. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Ces indications de lieu ont un sens typologique. Ça, c'est le lieu exact où Jésus accomplit ce miracle. Première question. Pourquoi Jean partit de la mer de Galilée? Alors que regardez, il s'agit manifestement d'un simple lac. Et vous savez, nous disons sans doute, parce que tous, nous parlons de la mer de Galilée. Jean est le seul auteur de l'Antiquité à appeler ce lac une mer. Et nous avons pris cela de Jean lui-même. Mais les autres évangélistes n'appellent pas ce lac une mer. Alors pourquoi? On peut se poser la question. Pourquoi est-ce que Jean qui insiste plus que les autres évangélistes sur le sens typologique des choses, pourquoi est-ce que lui, il appelle ce lac une mer? Mais c'est sans doute une allusion à la traversée de la mer Rouge par Moïse, conduisant son peuple au salut. Et quand Jésus monte sur la montagne, ça c'est la montagne, à Tibériade, il est comme Moïse, ça c'est une colline. Hein? Les Suisses savent très bien, ça c'est pas une montagne. Mais Jésus est comme Moïse qui a gravi le mont Sinaï et a contemplé et Dieu et lui a parlé face à face. C'est là que Moïse rencontre Dieu. Alors, qu'est-ce que Jean veut nous faire comprendre par tout cela? Il veut nous faire comprendre qu'en Jésus, un nouveau Moïse est à l'œuvre. Pas simplement n'importe quel, mais c'est le Moïse définitif. C'est le Moïse final. Tout comme Moïse, Jésus traverse l'eau pour entrer dans le désert, monte sur une montagne et fera s'asseoir les foules pour les nourrir. Vous voyez, c'est des parallélismes typologiques basés sur la vie de Moïse. Bon, une dernière indication, cette fois chronologique, la Pâque. La fête des Juifs était proche. Pas simplement pour fixer cet incident sur le calendrier. Le sens de ce miracle est intimement lié à la Pâque juive. Selon le rituel de la Pâque juive, le père de famille prend du pain et dit une prière d'action de grâce et il le distribue à ses convives. Exactement ce que Jésus fera au cours du dernier repas. Jésus fera exactement la même chose. Et il le fera une troisième fois, en Jean chapitre 21. Jésus reviendra à ce même endroit, à Tibériade. Il y aura la deuxième pêche miraculeuse, et Jésus va distribuer du pain et du poisson à ses apôtres. C'est le miracle, le signe des pains bis. Sans aucun doute, ce récit doit nous faire penser au Pâques chrétien, où Jésus donnera sa chair comme pain de vie. Ça, c'est le message de ce signe. Alors, le signe est préparé. Levant alors les yeux et voyant qu'une nombreuse foule vient à lui, Jésus dit à Philippe, pourquoi Philippe, je ne sais pas, mais le pauvre, il va être mis à l'épreuve. D'où achèterons-nous des pains pour que mangent ces gens? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Pourquoi? Jésus voulait savoir si Philippe connaissait bien les boulangers du coin? Non. En fait, il voulait savoir si Philippe a commencé à comprendre qui il était. L'épreuve sera ratée. Alors, cette question de Jésus, et ça c'est aussi, ça fait partie des récits de miracles chez Jean, il y a toujours quelqu'un avant le miracle qui indique que c'est, il y a aucune solution humaine possible. Que la situation est désespérée d'un point de vue humain. C'est Marie qui fait ça à Cana, elle dit à son fils, il n'y a plus de vin. D'accord? Bon, la situation est impossible. Il y a toujours quelqu'un pour dire cela. Mais Seigneur, il est déjà mort depuis 4 jours. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui dit cela. Ici, c'est l'impossibilité pour l'homme de se procurer le véritable pain. Et Jésus cherche à savoir si Philippe pour reconnaître que lui, Jésus, c'est le pain de vie, que c'est lui le salut providentiel de Dieu pour les âmes. Il veut savoir si Philippe commence à comprendre quelle est sa vraie mission en tant que Messie. Ah, mais ça va pas marcher. C'est intéressant. Est-ce que quelqu'un sait quelle question Philippe pose à Jésus dans la chambre haute? On verra ça. Ni Philippe, ni les autres disciples ne comprennent encore que le vrai Messie est le sauveur du monde et non pas un empereur juif. Comprennent pas. Jésus, par contre, connaît parfaitement le plan de Dieu. Dans toutes les Écritures, il n'y a qu'un seul être humain qui connaît pleinement le dessein de Dieu. Et cette personne s'appelle Jésus. Hein? Faut pas imaginer que les prophètes comprenaient le plan de Dieu. Faut pas imaginer que Moïse le comprenait. Même Jean-Baptiste. Jésus est le seul. C'est pour ça qu'on appelle le logos, la parole, la révélation, la pensée. Le mot logos a 33 traductions en français. Et Jésus les incarne toutes. Si nous connaissons le Père, c'est uniquement grâce à lui. Et si nous connaissons les intentions de Dieu à l'égard de notre race, c'est uniquement grâce à lui. Comparé à Jésus, l'Ancien Testament, c'est des ténèbres. C'est ce que Jean nous dit dans son évangile. Car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Hein? Pas simplement qu'il allait faire un miracle. Jésus savait qu'il donnerait sa vie pour nourrir le monde. C'est ça qu'il savait. Connaissait le plan de Dieu. Alors, Philippe lui répondit. 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre ?» Bon, j'ai pas mis ça dans la présentation, mais le fait que les pains soient d'orge est aussi important d'un point de vue typologique. C'est pas le premier miracle de la multiplication des pains dans la Bible. Est-ce que vous en connaissez d'autres? C'est le prophète Élie qui nourrit quoi? 400 hommes, si je me souviens bien. Avec des pains d'orge. D'accord? Le pain d'orge, c'est le pain des pauvres. C'est pas d'aussi bonne qualité que le pain de blé. Donc là, il y a un autre renvoi, il y a une autre allusion faite à l'œuvre de Dieu dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est un des buts de la lecture typologique, de reconnaître ces liens. Bon, maintenant, le signe est accompli. On va voir combien de temps. Ah, ok. Jésus dit, faites-les s'étendre, ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Les hommes s'étendirent alors au nombre d'environ 5000. Jésus ne se contente pas ici de distribuer la nourriture. C'est pas le resto du cœur. Il préside à une communauté de tables. Il préside à un festin. Et c'est un festin qui préfigure le festin messianique dans le règne qui vient. Dans plusieurs paraboles, Jésus compare le règne du Messie à un grand festin, souvent un festin de noces, hein, qu'un homme, un roi donne pour son fils, par exemple. Donc il y a cette allusion au festin messianique. Alors Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua aux convives. Pareillement aussi pour les petits poissons, autant qu'ils en voulaient. En satisfaisant pleinement à leur faim, Jésus répète ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël dans le désert. Chacun avait recueilli, c'est la manne, chacun avait recueilli autant qu'il pouvait en manger. Alors Jésus paraît que son père, il donne au peuple autant qu'il pouvait en manger. Quand il fut repu, il dit à ses disciples, rassemblez le surplus, les morceaux, afin qu'aucun ne soit perdu. Alors, moi, quand j'étais petit, je parlais que ces morceaux ramassés par les apôtres, c'était des miettes, des déchets, des portions à moitié mangées, où il y avait avec des marques des dents et de la salive. Non. C'est pas ça du tout. Le surplus, c'est des portions entières qui n'ont pas été employées. Pourquoi est-ce que Jésus fait cela? Parce que c'était un écolo. Et il n'aimait pas le gaspillage, n'est-ce pas? Bon, Jésus n'aimait pas peut-être le gaspillage, c'est pas la raison. En fait, les pains restants sont essentiels, essentiels, pour comprendre le sens de ceci. Le lendemain, au début du discours sur la pain de vie, discours incroyablement prescient. Le discours sur le pain de vie, Jésus oppose deux genres de nourriture. Œuvrez non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Il ne faut pas laisser perdre et périr le pain restant. Si le pain ne périt pas, c'est un pain impérissable, n'est-ce pas? Vous suivez? Ce pain symbolise cette autre nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Tel est le pain qui descend du ciel, dira Jésus dans ce discours. Qui en mange ne meurt pas. C'est moi le pain vivant qui est descendu du ciel. Oh tiens, le Messie est descendu du ciel. Ah, voilà un des mystères du royaume. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Davantage, le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Et voilà pourquoi le plus grand nombre de ses disciples ont quitté Jésus. Qui peut écouter ça? Nous cherchons un Messie, un roi, un futur empereur juif. Et là, il est en train de parler de sa mort. Oh non, on ne peut pas suivre ce gars-là. Ah, pardon, j'ai oublié de mettre le texte. Le pain restant a un deuxième but. Bon, il représente le don de la vie de Jésus. Mais aussi, il manifeste la supériorité du pain que Jésus donne sur la manne donnée à Israël par Moïse dans le désert. Le pain de Jésus est supérieur au pain de l'Ancien Testament. L'Évangile est supérieur à l'Ancien Testament, à la loi de Moïse. Les Hébreux avaient eux aussi mangé à satiété. Mais la manne pourrissait si on en conservait l'excédent. Vous vous souvenez de cette règle? Chaque juif chaque israélite pouvait ramasser autant qu'il voulait, mais il fallait que tout soit mangé le jour même. Sinon, ça périssait. Le pain de Jésus est destiné à demeurer éternellement. Le pain de Jésus ne périt et ne pourrit jamais. Ils rassemblèrent donc et remplirent 12 couffins avec les morceaux provenant des 5 pains d'orge qui étaient restés de ce qu'ils avaient mangé. Voilà la clé. Ça, c'est le détail important signalé dans tous les quatre évangiles. Jean donne beaucoup plus de détails, beaucoup plus de sens typologique que les autres évangélistes, mais dans les quatre évangiles, voici le détail le plus important. C'est le chiffre 12. Comme les 12 fils de Jacob. Comme les 12 tribus d'Israël. Comme les 12 apôtres. Dans le symbolisme numérique de la Bible, 12 est le chiffre du peuple de Dieu dans sa totalité. Dans l'Apocalypse, quand Jean voit la vision de l'Église qui descend du ciel, le chiffre 12 est partout. Il y a 12, il y a 144, il y a 144 000, et tout. 12, c'est le chiffre du peuple de Dieu dans sa totalité. Le pain du Messie ne peut pas être limité aux 5 000. Il en reste assez pour combler la faim spirituelle de toutes les générations futures du peuple de Dieu. Et maintenant, le signe est méconnu. Voir si on a le temps de faire ça. Oui. Alors, les gens, voyant le signe qu'il avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » On sait comme ça que certains appelaient le Messie. Les Juifs n'étaient pas vraiment fixés sur le Messie. Il y avait beaucoup de courants de pensée sur le Messie. La seule chose sur laquelle tous les Juifs étaient d'accord en parlant du Messie, le Messie n'était même pas l'objet principal de leur espérance. Le Messie, ce n'était que l'instrument que Dieu allait faire, allait utiliser pour accomplir l'espérance des Juifs. Et l'espérance des Juifs, c'était la restauration de la nation. C'est ça qu'ils attendaient. Le Messie était secondaire. Et donc, il y en a qui croyaient que le Messie serait un grand rabbin, d'autres c'est un chef militaire, etc. Mais ce prophète, pour la plupart des Juifs, devait être le libérateur du peuple, comme Moïse, et inaugurer pour Israël une ère de suprématie politique. Israël devait dominer politiquement et militairement les nations, lui imposer aux nations la loi de Moïse et aussi introduire une période de prospérité économique. Voilà ce que la plupart des Juifs, la grande majorité, attendaient du Messie. Alors Jésus, sachant qu'ils allaient venir et s'emparer de lui, pour le faire roi, mais un roi à leur sauce. Ok? Un empereur juif, nationaliste, théocratique. Il se retira plus avant dans la montagne seule. Quelle montagne? Sur la montagne où il était en communion avec Dieu, avant l'arrivée de la foule. Il monte tout seul sur cette montagne pour retrouver celui dont il recevra la vraie royauté. Vous vous souvenez de ce que Jésus dit à Pilate? Ma royauté n'est pas de ce monde. Ne vient pas de ce monde, c'est ça qu'il veut dire. Ma royauté, Pilate, ce n'est pas le genre de royauté que le monde juif incrédule espère. C'est ça que Jésus est en train de dire à Pilate. Je ne suis pas un chef nationaliste. Je ne suis pas un seigneur de la guerre. Je ne suis pas un futur empereur. Je suis le sauveur du monde. C'est l'enjeu des évangiles. Maintenant, Jésus et les disciples vont se quitter. Quand vint le soir, ses disciples descendirent à la mer et montés dans une barque, ils allaient de l'autre côté de la mer, à Capharnaüm. Et déjà l'obscurité s'était faite et Jésus n'était pas encore venu à eux. Les disciples s'embarquent en direction de Capharnaüm, là où Jésus avait sa maison. Jésus, pourquoi est-ce qu'ils sont partis sans Jésus? Pas bizarre. Eh bien, ils sont partis sans Jésus parce que Jésus les a forcés à partir sans lui. Nous apprenons cela de l'évangile de Matthieu. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Donc, Jésus renvoie les foules qui veulent faire de lui leur roi nationaliste et il envoie les disciples chez lui. Hein, vous vous doutez bien, ça a un sens typologique. Les disciples sont laissés à eux-mêmes dans l'obscurité, dans le noir. Ça a toujours un sens typologique chez Jean. Ils sont seuls et dans le noir parce qu'ils ne sont pas unis à Jésus sur la vraie nature de sa royauté. Ils ne sont pas en communion avec Dieu. Ils ne sont pas en communion avec Jésus sur ce point. Ils sont en communion avec Satan. La mer se réveillait au souffle d'un grand vent. Alors, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher de la barque. Et ils eurent peur. Pourquoi ils ont peur? Ah non, il y a au moins 4 professionnels dans cette barque, hein, qui, leur profession, c'est de naviguer sur ce lac. Ils ont peur, ils ont déjà vu des rafales, des vents forts, mais ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. Hein, ça, c'est... Ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le virent tous, et ils furent affolés. Ça vous rappelle déjà quelque chose? Ils croient que c'est un fantôme après la résurrection. OK. Mais il leur dit, c'est moi. Cessez d'avoir peur. La réponse de Jésus, c'est moi, c'est la formule « je suis » en grec que Jésus utilise pour révéler le secret de sa vraie mission en tant que Messie et en particulier pour opposer sa mission aux réalités inférieures de l'Ancien Testament. Quand Jésus dit « je suis la vigne, la vraie », il est en train de se mettre en contact, en contraste avec la vigne de l'Ancien Testament. La vigne de l'Ancien Testament, c'est toujours Israël. Jésus est en train de dire, je suis le vrai Israël. Et c'est par moi, ce n'est pas par la nation d'Israël que Dieu va accomplir son dessein. Je suis la porte. Je suis le bon berger, on a déjà vu ça. Je suis le vrai roi d'Israël. Jésus s'identifie comme le vrai Messie. Et le vrai Messie n'est pas un roi théocratique, ce n'est pas un empereur juif, c'est le sauveur de l'humanité. Tant que les disciples s'accrochent à leurs espoirs nationalistes, ils ne pourront pas parvenir là où Jésus veut qu'ils soient, dans sa maison. Ça, c'est intéressant. Vous vous souvenez? Quand Jésus parle de son départ, c'est dans le discours dans la chambre haute. Et Jésus parle de son départ et Pierre veut aller avec lui. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller avec toi? Et Jésus dit, tu iras, mais pas maintenant. Et nous, on pense qu'il parle de sa mort, c'est pas vrai. Jésus ne dit pas, je veux que tu sois là où je serai. Il dit, je veux que tu sois là où je suis. Où est-il? Il est en communion avec Dieu. Alors que Pierre n'est pas en communion avec Dieu à ce moment-là. Vous voyez, c'est ça. C'est là que Jésus, c'est pas un palais au ciel. C'est là, en communion de volonté, en communion de pensée, en communion d'action avec le Père. Et les disciples n'y sont pas. Et ici, ils rament, mais ils n'arrivent pas chez Jésus. Ils n'arrivent pas à être en communion avec lui. Parce que leur pensée n'est pas celle du Père, mais celle de Satan. On va voir ça par la suite. Alors, ils voulaient l'accueillir dans la barque. C'est peut-être ici un troisième miracle. Hein? Les commentateurs sont divisés là-dessus. Ils voulaient l'accueillir dans la barque lorsque, aussitôt, la barque se trouva au rivage, là où ils se rendaient, à Capharnaüm, la maison de Jésus. En acceptant l'enseignement de Jésus, le recevant dans leur barque, les disciples atteindront leur destination, la maison de Jésus, la communion avec lui et avec le Père. Mais il faut qu'ils accueillent l'enseignement de Jésus. Et ils ne feront pas cela avant la résurrection. Alors Jésus a délibérément, Jésus c'est le metteur en scène, hein, délibérément orchestré une répétition générale, typologique de son programme messianique, et c'est le signe le plus riche et le plus complet dans tous les évangiles. C'est vraiment incroyable ce que Jésus révèle dans ce signe. Incroyable. On va le refaire, d'accord? N'ayez pas peur, c'est plus court. En communion avec le Père, hein, Jésus est sur la montagne, là où était Moïse, il est en communion avec le Père, qui lui communique son plan de salut. Jésus voit s'approcher la foule affamée, la foule perdue. Oui, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, le Père montre à Jésus tout son dessein, tout son plan. Jésus est le seul être humain dans les Écritures qui connaît le dessein de Dieu. Et c'est un signe de l'amour que Dieu a pour le Fils. D'accord? Vous voulez savoir quelle est la preuve que Dieu vous aime? C'est pas parce qu'il vous donne des cadeaux. Il nous donne des cadeaux. Mais la plus grande preuve de son amour, c'est qu'il se dévoile lui-même. Il révèle ses pensées les plus intimes, les secrets les plus cachés, dit l'apôtre Paul. Et c'est comme ça dans notre vie, n'est-ce pas? Plus on aime quelqu'un, plus on se dévoile. On ne voit pas épancher son cœur devant quelqu'un qu'on déteste. C'est comme ça que Dieu nous aime. Il se fait connaître. Et l'instrument, le médiateur qui nous fait connaître Dieu, c'est le Fils. Alors, ça c'est l'origine céleste du dessein de Dieu et la connaissance intime que Jésus a de ce dessein. Ça c'est le premier point qui est révélé dans ceci. L'origine céleste du dessein de Dieu et la connaissance intime que Jésus en a. Jésus quitte la gloire qu'il avait dans la présence du Père, hein, sur la montagne, et il descend dans le monde. Et le Logos devint chair et il demeure et il demeura parmi nous. C'est l'incarnation. Donc on a le dessein de Dieu, deuxièmement, l'incarnation. Ça c'est déjà beaucoup. C'est loin d'être fini. Il nourrit les foules d'un pain miraculeux. Le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. C'est sa mort. Sa mort rédemptrice. Il se retire des multitudes égarées dans le rêve d'un empire juif et qui veulent le forcer à devenir un roi national, nationaliste. Il se retire de cette multitude. Jésus dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Pourquoi Jésus dit ça? Il se cache? Non, c'est parce qu'il cherche un messie nationaliste. Et ce messie nationaliste n'existe pas. Vous aurez beau le chercher. Les Juifs vont se donner seigneur de guerre après seigneur de guerre, chef nationaliste après chef nationaliste, et ça va aboutir à la destruction de la théocratie. Vous me cherchez, mais vous ne me trouverez pas, parce que vous vous trompez sur mon identité. Donc c'est son rejet par Israël. Il remonte sur la montagne, là où il était. Il monte s'asseoir sur son trône au ciel, en tant que roi de l'univers. Ça, c'est ce que moi j'appelle le scandale de l'ascension. On connaît le scandale de la croix, mais aussi le scandale de l'ascension. Parce que les Juifs ne voulaient pas un roi qui règne à partir du ciel. Ils veulent un roi qui règne à partir de Jérusalem. Et Jésus savait cela et dit, « Alors, si vous voyez le Fils de l'homme, montez là où il était auparavant. » Il parle de son ascension. Scandale pour les Juifs. On est déjà au cinquième point, c'est pas fini. Je vous ai dit, hein, c'est le signe le plus complet dans tous les évangiles. Il envoie les 12 qui sont toujours dans le noir en ce qui concerne sa vraie royauté. Il les envoie vers sa maison, la communion avec Dieu. Et de là où je m'en vais, vous savez le chemin. Ils savaient le chemin. Jésus leur a dit le dessein de Dieu, mais ils ne veulent pas entendre. Il y a une tension entre Jésus et les disciples sur cette question, parce que eux, ils rêvent, ça c'est l'objet de leur rêve, c'est d'être dans le nouveau gouvernement de l'Empire que Jésus va fonder. Donc, mais ils savent, parce que Jésus essaie de leur dire tout le temps, mais ils ne veulent pas entendre. Ça c'est la source des tensions très visibles. Vous savez, Jésus traite les apôtres assez durement. Il les appelle des idiots. Ah non, non, on a traduit « homme de peu d'intelligence ». Mais quelle est la différence? Et Jésus dit, mais vous ne comprenez pas encore, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Ça, c'est ma traduction. Mais c'est ce qu'il dit. Vous n'avez pas de tête? Vous avez les yeux, vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles, vous n'entendez pas. Il y a une tension très réelle entre Jésus et ses apôtres. Et la source de cette tension, c'est qu'ils ont deux visions différentes du Messie et du dessein de Dieu. Donc, ils ne parviennent pas. Ils ont beau ramer. Ils n'arriveront pas à la communion du Père, avec le Père. Et Jésus dit, c'est ça que Jésus veut dire, quand il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous restez fixé sur votre chef nationaliste, vous ne verrez jamais le royaume. C'est ce que Jésus veut dire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que je suis le vrai Messie, hein. Et sans le vrai Messie, vous n'arriverez à rien. Donc c'est l'incrédulité des disciples. Quand Jésus meurt sur la croix, les disciples, les apôtres sont incrédules. Eh oui. On va voir ça. Ressuscité, Jésus revient vers les disciples, foulant aux pieds les os de la mort. Il est ressuscité. Il foule aux pieds les os. Et il les instruit au sujet de sa vraie royauté et au sujet du vrai dessein de Dieu. Actes chapitre 1, verset 3. Après sa passion, il s'était fait voir d'eux et les avait entretenus du règne de Dieu. Jésus apparaît de temps en temps, pendant 40 ans, pour les persuader que sa mort, résurrection, ascension, c'est le vrai dessein de Dieu. Parce qu'il y a toujours des apôtres qui attendent, même après la résurrection, qui attendent un chef nationaliste. Et vous aurez pu deviner, un des derniers à devenir, à avoir la vraie foi, c'est Pierre. Parce que Pierre est têtu. Quand il a la vérité, il est têtu. Mais quand il a l'erreur aussi, il est têtu. C'est ça. Donc ça, c'est les apparitions, les enseignements que Jésus donne après sa résurrection, hein, post-pascal, disons. Les disciples accueillent Jésus dans la barque et arrivent immédiatement à destination. En accueillant l'enseignement que Jésus leur dispensera après sa résurrection, ils arriveront là où habite Jésus en communion avec le Père. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où moi je suis, pas où je serai, Jésus ne parle pas ici du ciel, cela soit avec moi. Je veux que mes apôtres soient en communion avec moi, que moi je suis en communion avec toi. Nous sommes d'accord sur le dessein de Dieu. C'est ça être en communion avec Dieu. Donc, nous avons la conversion des apôtres. Eh oui, on verra ça plus tard, parce qu'il faut quand même nuancer un peu cette affirmation. Mais ils ne sont pas totalement convertis à Jésus pendant son ministère public. Alors, on va refaire ça une troisième fois, mais rapide. Le dessein de Dieu est la connaissance que Jésus a de ce dessein. L'incarnation. Jésus vient dans le monde pour sauver l'humanité. Sa mort pour la vie du monde. Son rejet comme Messie par le judaïsme. Son ascension pour régner à la droite de Dieu. L'incrédulité des apôtres après la passion et la résurrection de Jésus. L'instruction donnée par Jésus pendant 40 jours au sujet de sa vraie royauté. La conversion des apôtres. Ils acceptent enfin le dessein de Dieu. Vous me croyez maintenant quand je dis que c'est le signe, le théologiquement, le plus riche que Jésus a accompli pendant sa vie. Tout est là, presque. Incroyable. Dans d'autres, j'aurais pu choisir d'autres miracles, mais on a un ou deux aspects du dessein de Dieu qui sont illustrés. Bah, là, ici, incroyable. Il y a quoi? Au moins huit points qui sont préfigurés par Jésus dans ce miracle qui est le seul à être rapporté dans les quatre évangiles, et pour raison. Une raison pour cela.